Vous écoutez, reprenons depuis le début.
Cet été, on vous lit Impossible,
un roman de Eri De Luca. Épisode 4.
Précédemment, le jeune juge et l'avocat de la défense poussent notre héros à avouer un crime qu'il dit ne pas avoir commis. Il attend la suite de l'enquête en prison en écrivant à celle qu'il aime.
Reprenons l'interrogatoire. L'avocat de la défense est présent. Nous n'avons pas encore les conclusions scientifiques, mais je crois bon de faire une dernière tentative. Vous avez longtemps fait partie d'un mouvement de protestation de la jeunesse.
Il s'agissait d'un mouvement révolutionnaire et non d'une protestation d'étudiants.
C'est bien ça. Vous avez été un militant à plein temps, comme on définissait alors un adhérent qui pouvait se consacrer complètement à l'activisme politique. C'est exact ?
Oui, j'étais militant à plein temps. L'organisation subvenait à mes besoins.
Vous avez consacré les années de votre jeunesse à cette expérience ?
Toutes les années de cet âge-là, de 19 à 30 ans.
Il est évident qu'un tel engagement implique une adhésion intellectuelle et matérielle qui fait de ces années les plus importantes de votre vie.
Certainement les années les plus bondées et les plus collectives, mais je ne saurais en évaluer l'importance.
À la différence d'autres militants de l'époque, vous avez conservé un sentiment de fidélité et d'attachement envers cette période, à l'abri des revirements. D'autres se sont ouvertement éloignés, désavouant même leurs actions, sans aucune arrière-pensée d'ordre judiciaire ou de récompense.
Ils se sont dissociés d'eux-mêmes.
C'est bien ça, vos sentiments envers eux révèlent du mépris, étant donné les termes que vous employez.
Pour moi, ils sont infréquentables, mais je ne prouve pas pour eux le triste sentiment du mépris.
Alors, que doivent être les sentiments envers quelqu'un qui collabore avec l'État à combattre, qui dénonce et fait arrêter ses propres camarades, sinon ceux d'une totale aversion, de haine, de rancune, d'esprit de vengeance? J'exagère ?
Vous n'exagérez pas, vous vous trompez. Mais avant de poursuivre, je demande à renoncer à la présence physique de l'avocat commis d'office. Ce n'est pas une question personnelle, c'est que je préfère parler entre quatre yeux.
Votre quête ne peut être retenue. L'absence d'avocat de la défense durant la phase de l'interrogatoire de l'inculpé est inconcevable et inconstitutionnelle.
Je ne pourrai pas poursuivre. Je n'arrive pas à surmonter l'obstacle d'une présence pour moi superflue et donc encombrante.
Avocat de la défense, je ne peux pas sortir de cette pièce, mais je peux ne pas m'asseoir à côté de vous et me mettre derrière en déplaçant ma chaise près de la porte.
Je vous remercie de votre amabilité. Dans ce cas, je peux continuer.
C'est inhabituel, mais ça ne me dérange pas.
Je poursuis. Celui qui a commis une trahison s'est trahi aussi lui-même. Même s'il se persuade qu'il a fait une chose nécessaire, il a arraché une part de lui-même, de sa jeunesse. Je connais un traître efficace qui conduisait les carabiniers dans les endroits où il pouvait arrêter ses camarades. Il recommandait de bien les traiter au moment de leur arrestation, parce qu'ils étaient pour lui les meilleures personnes qu'il ait connues. Il savait qu'ils seraient torturés, mais tout en les trahissant, il continuait à les aimer. De telles personnes se savent déshonorées. Elles portent sur elles le poids d'une infamie. Je ne ressens ni haine, ni rancune, ni esprit de vengeance. Des décennies, des morts de papes, des Jeux Olympiques sont passés. Le monde s'est retourné comme un gant. Ce XXe siècle est un temps si périmé qu'il est incompréhensible pour ceux qui sont venus après. Si j'éprouvais ces sentiments que vous me prêtez, je serais un homme malade. Vous me prêtez de la haine, je tiens à vous raconter quelque chose. Vous connaissez les chefs d'inculpation qui m'ont fait passer des années dans les prisons d'îles petites et grandes. J'ai été condamnée aussi pour des vols commis dans le but de financer l'organisation. L'homme qui m'a dénoncée avec d'autres a reconnu qu'il y avait participé. Il a dit qu'aucun coup de feu n'avait jamais été tiré. Au cours d'un de ces braquages de banque, un enfant se trouvait à l'intérieur avec sa mère. L'irruption des braqueurs l'effraie et il se met à pleurer. Un des bandits s'approche et lui dit que nous sommes en train de jouer, que c'est une blague. Il lui montre son pistolet et presse la détente qui fait un clic à vide. Il avait retiré la balle dans le canon et le chargeur. L'enfant se calme et sourit. Le hold-up se termine. Les bandits s'en vont avec ce qu'ils ont raflé dans les caisses. Vous avez compris que le voleur qui a calmé l'enfant était l'homme de la vire. Une autre fois, nous étions poursuivis. Nous enfuyions à pied. Brusquement, il s'arrête alors que je continue à courir. Il s'arrête et menace de lancer une grenade sur la voiture de police. Le véhicule fait marche arrière et s'en va. En fait de grenade, il avait dans la main un ananas peint en gris. La bombe était fausse, mais lui non. Vous me demandez si je hais cet homme ? Quand on passe l'ensemble de telles journées durant des années, on ne change pas de sentiment comme de chemise à chaque saison. On y reste enkysté.
Avez-vous d'autres souvenirs de cet homme, de l'époque où vous étiez ensemble ?
Il lisait Jack London, mais pas les textes politiques qui circulaient chez nous, militants. Il disait que c'était un révolutionnaire, qu'il écrivait des histoires du bon côté. Il avait dit, au début du XXe siècle, que la révolution existait déjà. Son livre préféré était « Le vagabond des étoiles ». Une nuit en plein air, il me dit que pour lui, le mot « étoile » ne convenait pas. Il les appelait « terre ». Appelle-les comme tu veux, ce n'est pas notre problème, nous devons nous occuper du monde, les étoiles sont l'affaire des astronomes, lui ai-je répondu. Moi, ce sentiment me donnait sommeil. Bref, il était unique en son genre. Chacun de nous l'était, mais nous portions un uniforme intérieur qui nous tenait en rang serré. Même s'il était invisible, lui le retirait. Les discussions politiques l'ennuyaient, mais il se comportait bien quand il le fallait. Je ne m'attendais pas à une trahison de sa part. Non, pas de lui.
Les actes du procès de votre organisation permettent de reconstituer votre parcours. Cet homme et vous avez adhéré ensemble à la formation armée ?
Pas seulement nous deux. Nous étions un petit groupe à la rejoindre en même temps.
Vous vous connaissiez déjà avant ?
Depuis l'école, nous faisions partie de la même association étudiante.
Vous avez grandi ensemble. Vous vous connaissiez bien.
Comme on peut se connaître lorsqu'on professe les mêmes idées et lorsqu'on les met en pratique de façon cohérente. Je fais allusion au partage de l'argent, des logements, de la nourriture, des corvées de ménage. L'égalité existait aussi dans les tâches ménagères. Nous connaissions nos comportements, mais quasiment rien de l'intimité de chacun. Mais nous avions curieusement un goût commun. Nous aimions le tennis et pas le foot. Lui l'avait pratiqué, moi non. Il arrivait de se procurer des billets pour le tournoi international de Rome, des places de luxe dans les tribunes. On y allait bien habillé. Moi j'aimais les doubles, lui les simples. Tandis que je suivais les matchs, lui profitait de l'attention générale pour faucher des portefeuilles. Il ne volait pas pour lui. Il versait l'argent dans la caisse commune, contrairement à moi qui était fasciné par le jeu des champions. Il ne se laissait pas aller à l'insouciance. Même un tournoi de tennis devait servir notre objectif. Il avait la main légère et il fauchait mon portefeuille sans que je m'en aperçoive. Il le faisait pour s'entraîner, mais il disait que j'étais trop facile à dépouiller. Je n'ai jamais été capable de voler quoi que ce soit, pas même un livre sur une étagère.
Et pourtant, vous avez aussi été condamné pour vol à main armée.
Pour financer l'organisation. Si j'avais dû le faire pour moi, j'aurais renoncé. Le vol me paralyse. Tendre la main pour enlever quelque chose à une personne, impossible pour moi. Le programme était tout le contraire. Tendre la main pour donner à chacun une juste part. Je lui disais qu'il était un voleur et qu'il ne respectait même pas le tennis que nous aimions. « C'est un jeu de riches », répondait-il. « J'aime bien le tennis, mais c'est une concession à mes origines bourgeoises, et donc je l'atténue par le contrepoids d'un geste utile à la cause. » Il disait « Il s'agit de taxer des contribuables. Je ne suis pas un voleur, je suis un perceveur. » Il voulait se débarrasser de l'étiquette de sa classe aisée. Je n'avais pas ces scrupules de famille. Mon père était conducteur de tramway, ma mère faisait des ménages payés à l'heure. Nous habitions une banlieue populaire. L'aisance n'a jamais frappé à notre porte. La bourgeoisie lui a été utile par la suite. Il a pris un avocat célèbre pour se défendre et il n'a cessé de balancer pour s'en sortir.
Dans votre relation, la différence d'extraction sociale compte aussi. Un beau mélange d'admiration, de défi, de preuve.
Vous pouvez écouter mais comprendre, sûrement pas. Vous devez trancher, prononcer des jugements. Que pouvez-vous savoir de ce qui nous a unis, de ce que nous avons partagé ?
Ce partage concernait aussi votre rapport avec les femmes ?
C'était avant tout des camarades de lutte. Ensuite, je n'ai rien à dire sur des ragots. Occupez-vous de la chronique noire et non de la rose.
Il ne s'agit pas de ragots, de qui était avec qui. J'essaye de savoir s'il existait des différends entre vous sur le plan sentimental.
Votre recherche d'un mobile glisse vers le crime passionnel ? Évitons le ridicule.
Je retire ma question. Il n'en demeure pas moins que vous n'étiez pas des moines. Il y avait des femmes, je veux dire des camarades, dans l'organisation. Des liens affectifs se nouaient et se dénouaient.
Ce qui l'emportait sur tout le reste, c'était la raison pour laquelle nous étions ensemble. Et c'était cela qui décidait du sort final de nos vies.
Et de celle des autres, mais cette fois je ne parle pas des morts. La vie de vos parents, de vos frères, de vos sœurs et de vos enfants aussi. Vous les avez obligés à vous suivre dans les prisons de toute l'Italie pour vous soutenir.
Je ne vous permets pas de parler d'eux.
Je retire cette remarque. Je vous remercie de ces détails. Ils rendent le contexte plus difficile et le mobile plus compliqué. Pour rester dans l'hypothèse d'un guet-apens sur la vire, je dois revoir toutes les données. Il n'était pas pour vous un simple traître. Nous avons ici un homme avec qui vous avez partagé les moments intenses de personnes qui ont confiance l'une de l'autre. Nous avons ici un homme que vous avez même admiré. Votre gratitude envers le geste qui vous a permis d'échapper à une arrestation est aussi à prendre en considération. Je dois comprendre que chez vous, la vengeance est un acte plus déchirant qu'un violent rééquilibrage opéré avec le recul du temps. Vous avez dû vous libérer de sentiments profonds, enquistés, comme vous venez de le dire. Il vous a fallu des années de prison pour déraciner cette affection. Et voilà que ressurgit cet homme qui était mort pour vous. Alors c'est le passé qui reflue et qui n'est pas passé. Si une rencontre accidentelle suffit pour que vous le sentiez à nouveau frémir dans vos nerfs. Si vous avez prié un jour dans votre vie, vous avez dû prier pour ne jamais le rencontrer. Si vous avez adressé cette prière au ciel, vous n'avez pas été exaucé. J'essaye de m'identifier à la personne que je crois que vous êtes, pour remplir les espaces que vous laissez en blanc. Dans tout ce que vous dites, il manque des pans éboulés à reconstruire. On doit attribuer un mobile à un crime, mais de combien de mobiles précédents est fait ce mobile ? Connaissez-vous la légende de Thésée dans le labyrinthe ? Pour mon enquête, ce qui compte n'est pas d'arriver au Minotaure, mais de résoudre les étapes du parcours. Finalement, le Minotaure est un détail.
Comme un sommet au bout d'une ascension.
Exactement. Aujourd'hui, vous vous sentez comme un homme isolé dans cette époque et dans cette société. Vous allez en montagne pour approfondir le vide et la distance. Aujourd'hui, vous êtes une sorte d'ascète laïque. Vous vous retirez dans un espace désert pour ne pas partager le présent. Mais votre passé est resté indemne et rien n'empêche un ascète de commettre un crime. D'accord, vous ne ressentez pas de haine. Cela signifie que vous pouvez avoir agi sans cette impulsion de sang-froid. Vous vous êtes peut-être croisé par hasard dans le même lieu de villégiature, ce qui a fait naître une occasion de vengeance.
Vous vous trompez sur le passé, il ne reste pas intact. Le temps est une lèpre qui le fait tomber par petits bouts. De sang-froid, je peux vous dire que vous vous égarez et que vos hypothèses ont un besoin urgent de vérification.
C'est possible, mais dans mes enquêtes, les digressions sont utiles. Elles font connaître les caractères, ressortir des détails intéressants, ne serait-ce que par le simple usage du vocabulaire. Tout à l'heure, vous m'avez corrigé en utilisant les termes de dissociation, de désaveu. En admettant que ce ne soient pas des expressions de haine, elles manifestent du dédain. Il faut que je comprenne si vous êtes à la hauteur du crime que je crois que vous avez commis. Je pourrais conclure que vous n'êtes pas du tout à la hauteur. Vous voulez me prouver que vous êtes supérieur, que vous ne vous êtes pas abaissé à ce niveau. Mais vous pourriez aussi bien être inférieur à ce niveau, n'ayant pas été capable de commettre ce crime. Dans ce cas, mon accusation serait une flatterie, un compliment. En dehors du cadre de l'enquête, vous êtes en train de gagner le soutien et la considération de votre milieu d'autrefois, qui suit cette affaire avec des commentaires positifs.
Ah bon, ils approuvent quelque chose que je n'y avoir fait. Je commence à prendre plaisir à vous écouter. L'intérêt que me porte quelqu'un m'est très agréable. Être ainsi au centre de l'attention d'un inconnu, même pour des raisons professionnelles, flatte mon amour-propre et me fait me sentir important. Serais-je incapable ? Serais-je supérieur ? Je ne saurais répondre. Il me semble en revanche que vous, vous êtes fixé une tâche au-dessus de vos capacités, en maintenant en examen une personne plus âgée et plus compétente que vous. Je connais les procès. Non pas en téléspectateur de séries policières, mais en tant que membre de la génération la plus poursuivie en justice de l'histoire d'Italie. Vous allez trouver ça bizarre, mais dans ma condition d'infériorité, en état d'arrestation, je crois avoir un avantage sur vous. Je suis en mesure de repousser des accusations plus que vous ne l'êtes, de les étayer. Vous dites que cette inculpation me procure une certaine considération dans les milieux militants d'autrefois. Pourquoi pas aussi dans ceux de la pègre, la mort d'un traître est conforme à leur code de conduite. Une réputation, la sortie de l'anonymat, mon nom dans les journaux, c'est du papier hygiénique, ça ne dure que le temps de s'en servir. La célébrité qui nous rend inoubliables nous anonyme, c'est notre inscription à vie dans les archives de la police. Là-dedans, nous sommes ineffaçables, à perpétuité. Moi je le suis depuis des dizaines d'années. La célébrité, je l'ai déjà, nous sommes nombreux à la voir. L'écrivain sicilien Leonardo Sciascia a participé à la commission d'enquête parlementaire sur l'enlèvement d'Aldo Moro. Il en a retiré un sentiment de désolation envers les coupables et leur motivation qu'il ne pouvait ou ne voulait pas élever au rang de raison. Mais ses réflexions ont rejoint son point de vue littéraire dont j'ai discuté longuement avec moi-même. Je m'arrête là. Ce que je dis vous intéresse ? Je ne fais que suivre une de mes vieilles pistes de réflexion, une explication avec moi-même, en aucun cas utile à votre enquête.
Ça m'intéresse. En marge de l'objectif de cet entretien entre enquêteur et suspect, j'écoute un point de vue sur l'histoire.
Alors je continue. Sciascia dit que même un acte politique criminel comme cet enlèvement avec massacre de l'escorte concerne seulement ceux qui l'ont commis. Le crime, même s'il a été exécuté à titre collectif, relève de la responsabilité individuelle. Du point de vue humain et littéraire, c'est vrai. Les coups qui ont été tirés dans ces actions continuent à exercer des contre-coups dans la main des participants. Mais il y a d'autres domaines qui prennent en compte les délits de participation à une bande armée. L'État exige d'appliquer la circonstance aggravante de l'association à chaque membre de l'organisation. Ce n'est pas à vous que j'expliquerai ce que c'est. En tant que participant à une organisation armée, j'ai été condamné comme responsable de toutes les actions, y compris celles où je n'étais pas présent. Dans les années de ces procès, des peines à perpétuité ont été infligées à ceux qui n'avaient fait qu'héberger un membre de l'organisation dans leur appartement. Fin de la responsabilité individuelle. Et tant pis pour Tchatcha, parlementaire de l'État italien. Celui qui appartient à une loi qui condamne en bloc aussi ceux qui n'ont pas commis de crimes spécifiques ne peut pas être l'arbitre des consciences des autres. La presse de l'époque a copié le titre d'un film allemand pour englober toute la période 1970-1980 dans l'expression « année de plomb ». Cette presse a associé au plombage une large part de militants révolutionnaires qui ne s'étaient pas enrôlés dans des bandes armées. Une autre pierre tombale s'ajoute à la mort de la responsabilité individuelle. Enfin, je me tiens moi-même pour responsable de ce qui a été commis au cours de ces années publiques. Non seulement des délits, mais aussi des bons résultats obtenus par les combats de rue entrent dans mon bilan d'une époque collective. Alors de quoi parle Tchatcha ? Du ricochet émotif que l'action armée décharge sur celui qui l'exécute. La motivation politique ne protège pas les nerfs du participant des conséquences à long terme. Et on en vient à penser que cette action qu'on tenait alors pour nécessaire et urgente serait absurde aujourd'hui. Le temps écoulé efface la raison politique, isole le participant. Ses coups continueront à résonner en lui. Tchatcha a raison sur le plan humain, la responsabilité est individuelle. Il avait déjà raison sur le plan littéraire, fixé une fois pour toutes par crime et châtiment. Il a tort sur le plan de la loi et de la politique. En tant que parlementaire, dans une commission d'enquête, il se trouvait au mauvais endroit pour tirer ses conclusions. Élu sur les listes du Parti radical, il a cru dans cette sorte d'engagement d'un écrivain. Il se trompait, car il niait son individualité, inconciliable avec l'appartenance à un parti et un organe de l'État. Dans cette fonction d'enquêteur public, il n'était plus écrivain, il n'avait pas droit à la neutralité. Je me rends compte que je fais moi aussi des digressions sur des sujets qui m'accompagnent depuis longtemps, je n'ai pas l'occasion d'en parler, alors je saisis celle qui se présente maintenant. Comme si j'étais seule, un soir, à une table de bistrot et que je me vidais mes pensées dans un long monologue. Je rouvre les yeux et j'ai un magistrat devant moi. Qu'est-ce que je fais ? Je collabore ? Non, pas comme on emploie ce verbe dans les actes judiciaires. Je vous fais part de considérations personnelles. Je vous dévoile certains aspects de mon caractère. Mais qui se soucie de mon caractère ? Perdre son temps à écouter un homme qui s'est empêtré dans le XXe siècle. Il vous intéresse ? Je vous l'offre, mon caractère. Vous ne pourrez pas l'utiliser contre moi. Il ne s'agit pas de personnalité. Je n'en ai pas une bien à moi. J'en ai une qui est multiple, celle qui nous fait une époque agitée, qui faisait tomber les cavaliers de leur selle.
Vous dites avec Tchatcha que chaque action retombe sur celui qui la commet. Toute motivation au nom d'une cause publique laisse le coupable aux prises avec lui-même. C'est un aveu important concernant votre caractère. Vous vous déclarez responsable de ce que vous avez commis personnellement et aussi de ce qui a été accompli par votre génération. Ces responsabilités assumées doivent vous peser depuis longtemps, au point de rendre légère cette dernière affaire dans laquelle vous êtes impliqué. Pour vous, cette inculpation d'homicide est de peu de poids au regard de tout ce que vous avez déjà voulu assumer. Un délire de responsabilité totale vous rend invulnérable à l'accusation. La restriction de l'isolement n'a aucun effet de pression sur vous. Vous payez l'appartenance à une époque que vous qualifiez d'agitée. Votre caractère m'apparaît plus clairement, tout comme la personnalité exprimée par votre génération. Je comprends que cette détention ne comporte pour vous aucune espèce de mortification.
Mortification. Je vais vous raconter une anecdote. La veille de Noël, nous allions recevoir nos cadeaux chez mes oncles et tantes. Nous étions nombreux. L'époque était nombreuse. Un adulte se déguisait en Père Noël et distribuait les cadeaux aux enfants. Ceux d'entre nous qui allaient déjà à l'école devaient apporter une lettre avec de bonnes résolutions et nous demandaient de dire un poème. À cette époque, on enseignait aux enfants à les réciter par cœur. Chaque année, au mois de décembre, il fallait apprendre le poème de Noël. C'était dur de devoir s'exhiber dans le silence complaisant des adultes, mais c'était le prix à payer à la cérémonie. Un jour, ce fut au tour d'un enfant qui ne voulait pas réciter son poème. Il se justifiait en disant qu'on ne lui en avait pas appris. On insista pour qu'il en dise un, ou seulement quelques vers. Ainsi, dans l'habituel silence complaisant, l'enfant s'écria « C'est Pâques, c'est Pâques !» Il ne connaissait que celui-ci. Il fut interrompu par l'hilarité générale qui se prolongea même devant ses larmes et ses sanglots. « Je vois que vous avez souri, vous aussi. Je n'imagine pas de mortification plus forte que celle d'un enfant qui fait de son mieux et qui reçoit en échange un fou rire d'adulte. » Encouragés par eux, les enfants se mirent à rire également. « Je voudrais savoir aujourd'hui, du moi-même d'autrefois, si j'ai ri aussi. Je me souviens encore du prénom et du nom de cet enfant plus petit que moi. Son humiliation est restée gravée dans ma mémoire, irrémédiablement. Ici, à cette table, il n'existe pas de mortification. Je fais de mon mieux et personne ne se permet de se moquer de moi.
Personne n'a consolé cet enfant ?
Sa mère, à cette époque, il y avait les mères.
Elles sont là aussi maintenant.
Celle de cet enfant et la mienne, non.
Un petit détail, vous connaissez des poèmes par cœur ?
Une quantité, je les révise dans mon isolement.
Revenons à notre affaire. Je crois que vous êtes encore en train d'expier aujourd'hui votre appartenance.
L'appartenance, oui, je l'ai pratiquée. Elle a été totale, au point d'en exclure tout autre. Je suis une ville du sud, de celles qui, à force de cris perçants, font du système nerveux un instrument à cordes qu'on pince. Et puis je suis d'une famille qui m'a donné une éducation sévère et nécessaire. Ces appartenances ont été interrompues. Je n'ai plus été d'un lieu ni d'une histoire personnelle. J'ai appartenu à une époque publique. J'ai retrouvé ensuite mes origines. Elles étaient devenues des souvenirs, des années, des bouteilles vidées. Dans ces entretiens, j'oublie que je suis sous le coup d'une accusation pour homicide. Avant, j'avais l'impression d'être seule dans un bistrot avec mon monologue. Maintenant, il me semble que je suis devant une assemblée muette, une foule d'absents devant lesquels j'interviens. Je m'aperçois de nouveau que j'ai un magistrat devant moi et peu m'importe qu'il ait écouté avec les autres. Vous avez peut-être des pouvoirs de chaman et vous provoquez des états de suspension de la conscience. Ou bien c'est moi qui me sens invulnérable à vos accusations et capable de déborder au-delà des réponses nécessaires. Je ne crains pas les conséquences des événements de ces jours-ci. Le temps de la réclusion ne me pèse pas, car même là-dedans, il reste mien. Je suis assez vieux pour ne pas trépigner d'impatience à l'idée de gambader dehors.
Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je considère que cet acte d'instruction est terminé. Je peux vous dire que je n'ai aucun don chamanique et qu'il ne m'arrive jamais d'avoir une écoute aussi large avec des inculpés. Je ne considère pas votre ouverture comme une collaboration. Vous vous tenez à l'écart. Vous m'avez offert une leçon d'histoire politique de votre point de vue qui n'est pas celui d'un témoin. Le témoin se trouve par hasard sur place et sur le moment. Mais vous, vous êtes partie prenante d'une époque vaincue et révolue. Votre point de vue sur les faits est nouveau et clair pour moi. Je vous suis donc reconnaissant de ces digressions.
Je profite de cette gratitude pour vous demander quelque chose. Laissez-moi en isolement. Je n'ai nul besoin de socialiser avec d'autres détenus ni d'avoir plus d'heures de promenade. Et puis je voudrais vous donner un conseil. Faites-vous accompagner sur la vire du Bandiarac. Allez-y avec le seul homme qui pourra assurer votre sécurité. Il s'appelle Diego Z, guide de haute montagne. C'est avec lui que j'y suis allée la première fois. Allez-y pour voir et pour sentir sous vos pieds ce que c'est. Faites-le pour vous, non pour l'enquête. Enfin, je demande à l'avocat qui est derrière moi de ne pas présenter de demande de mise en liberté provisoire. Je préfère sortir pour avoir été acquitté et non parce qu'un avocat a le pouvoir de me faire rentrer plus tôt chez moi. Amore mio. Une autre lettre s'ajoute à celle non expédiée. Je reste en isolement. Ainsi, il n'y a aucune possibilité de recevoir des visites. Je n'en souhaite pas, pas plus que des lettres. C'est un lieu pour hommes seuls, un couloir de cellules individuelles, de monastères, sans prière. Les moines d'ici s'en remettent aux avocats, ce sont eux qui s'occupent des prières. Mon affaire est expérimentale. Pousser un homme à avouer un crime politique, le dernier ajouté à une époque expirée. On veut me persuader qu'ainsi se termine un registre d'actes judiciaires. L'aveu d'une vengeance politique servirait à fermer une parenthèse restée ouverte jusqu'à aujourd'hui. Car aucun de ceux qui ont trahi leurs propres camarades n'a été atteint par une vengeance. Le plateau de la balance reste incliné. Une seule vengeance suffirait-elle à équilibrer les poids ? Les poids, les charges pénales, non. Mais justement, parce qu'une seule plutôt qu'aucune a un poids spécifique, symbolique et plus important. Ce raisonnement me cerne et veut ma reddition à travers mon approbation. Et puis, avec des aveux complets, il y aurait l'avantage personnel de se décharger d'un poids. Mais ce magistrat n'a sûrement jamais fait l'expérience dans sa vie d'aveu ayant des conséquences pénales. Il me propose le soulagement physique de me débarrasser d'un poids sur l'estomac, comme si on était constipé et que les aveux serviraient de purge. Il ne pourra l'emporter par le biais de mes aveux. S'il ne m'acquitte pas, je redeviendrai un inculpé au tribunal. La nouveauté, c'est que cette fois, je serai plus vieux que les juges. C'est un avantage pour moi. Je les retrouverai pourvus d'une autorité et d'un pouvoir réduit. Quand j'avais 20 ans, ils avaient le pouvoir de me priver d'une bonne part de vie à l'air libre. À présent, ils ne peuvent que ratisser des miettes. Tu sais qu'on m'accuse d'avoir poussé dans le vide du haut d'un sentier un camarade de nos vieilles luttes politiques, devenu ensuite un délateur. À l'époque, nous étions amis. On dit amis pour la vie, mais cette expression ne lui suffisait pas, car la vie est imprévisible. Il disait que nous étions amis par le sang. Mais nous n'avons pas fait le pacte en nous entaillant la paume de la main et en mêlant nos deux sangs. Il me l'a demandé, mais je n'ai pas voulu. Ce geste aurait exclu les autres camarades. Dans ces années agitées, l'amitié était un échange d'aide, en sachant qu'elle serait immédiate et sans explication. On était unis par une volonté commune. Nous nous étions coupés de nos familles à l'arracher, en renonçant et en la reniant aussi à la vie domestique. Nous pratiquions une autre appartenance. L'amitié remplaçait l'affection familiale en faisant de l'autre un frère, un père, un fils. Ainsi étions-nous tous les deux, à l'époque. Je t'en parle pour m'expliquer des choses restées confuses. Je n'ai pas compris alors comment il a pu rompre avec nous. Au lieu de partager la défaite et les peines, il nous a trahis, moi compris. Il n'a oublié personne en nous livrant. Et je comprends encore moins pourquoi je ressens sa délation comme un tort fait à moi plus qu'aux tous les autres. Je peux t'en dire davantage sur lui. Contrairement à moi, il était spirituel et il savait s'y prendre avec les filles. Il inventait des manières d'engager la conversation. Un jour, il dit en ma présence à une fille qui lui plaisait « Déguste-moi ». Elle a ri et lui a cédé. Cette invite se répandit parmi nous, mais dite par d'autres, elle ne fonctionnait pas. Elle devint pourtant son surnom, nous l'appelions Gustin. Tu vois qu'après des décennies, je ne parviens toujours pas à séparer le traître de l'ami. Je t'écris ces choses parce que je crois que tu sauras me les expliquer. Je vis comme un moine depuis longtemps. Je cesse quand nous sommes ensemble et que nous nous trouvons brusquement sans fuseau horaire entre nous. Alors, le temps passé ensemble se multiplie, le tien et le mien coïncident. Ce qui compte pour moi, c'est partager les mêmes minutes du jour plus qu'être au même endroit. J'adore te demander l'heure qu'il est pour t'entendre dire que c'est la même que la mienne. J'aime ta voix lasse qui me le confirme. Au cours de l'interrogatoire, je me suis mis à parler de Leonardo Ciaccia, de l'époque où il était passé d'écrivain à parlementaire. Mais avec toi, je préfère rappeler son écriture. J'ai été un de ses heureux lecteurs. J'aime la brièveté de ses récits, l'empreinte sicilienne qui ne laisse pas aller à la cadence du dialecte. C'est une Sicile intérieure. Il propose des héros isolés face au système et à l'accoutumance au tort. Dans une de ses phrases, dont je me souviens mal, il écrit que la vérité est au fond du puits. Si on se penche, on voit le reflet du soleil ou de la lune. Mais si on descend dans le puits, on ne trouve ni l'un ni l'autre. On trouve la vérité. C'est ainsi. Il faut descendre ou tomber dedans. Le magistrat, par exemple, m'interroge de l'autre côté de la margelle. Il ne descend pas. Il se penche tout au plus. Ciaccia écrivait des histoires d'enquêteurs doués d'un bon sens de l'observation qui découvraient les complexités inextricables. La société était un buisson d'épines, piquante, vivante et morte. Les films tirés de ces histoires manquent de la densité de ces descriptions, en privilégiant l'histoire du crime. Avec le magistrat, il s'agit plus d'un débat que d'un interrogatoire. Il n'a encore fourni aucune preuve et la conversation tourne donc autour de son hypothèse d'accusation. Il l'avance et moi je la démonte. Je n'éprouve aucune hostilité envers cet homme qui a l'âge du fils que je n'ai pas. Je lui ai conseillé d'aller en montagne. Il n'a jamais fait d'ascension. Toi, tu as appris avec moi, puis tu as décidé que ça ne te plaisait pas. Mais tu as pu apprécier le bon pas qui ne glisse pas sur les petits cailloux. Je lui ai conseillé les montagnes non pour le mettre en difficulté, mais pour lui faire comprendre un peu mieux de quoi il m'accuse. Il pourra bien se persuader que je suis coupable, mais il saura au moins à quel endroit a eu lieu la chute. Au cours de l'interrogatoire, on a également parlé de tennis que j'aimais aussi quand j'étais jeune. Je n'y ai pas joué. À l'époque, c'était un sport réservé à un petit nombre. Il se pratiquait dans des cercles. Il s'est répandu aujourd'hui. Les champions viennent de toutes les origines sociales. Il est devenu plus beau et plus rapide. Je le regarde à la télé, je ne suis plus allée assister à un tournoi. On ira peut-être un jour, tous les deux. Pourquoi j'aime le tennis? Je me le suis demandé, pour la géométrie plane des trajectoires qui cherchent le point du terrain le plus éloigné du joueur adverse. La raquette utilisée comme une massue et comme une caresse. Le bruit des coups qui varie du claquement des doigts au bruissement d'une poignée de main. Le rebond de la balle fait le bruit de la goutte perdue par le robinet. Ici, en isolement, je reproduis les yeux fermés les bruits d'un terrain de tennis. Cela aussi me font aller loin. Ici, c'est un endroit pour oublier le sens du verbe « pouvoir ». Ici, on ne peut presque rien. Si cette incarcération se prolonge, je me résignerai à t'envoyer ces lettres, sinon je ferai moi-même le facteur. Je t'embrasse, amore mio.
C'était Célia
et Claire.
Bisous.